C'est Bourdin & Co, Jean-Jacques Bourdin.
Bonjour à toutes et à tous et je suis heureux. Je suis heureux de recevoir un homme étonnant. Ce matin, un personnage exceptionnel. Il s'appelle Henri Quinson. Vous allez voir, il est très modeste. Oui, vous le voyez à l'écran sur BFM TV. Il est très très modeste, mais il a une vie tout à fait étonnante. Il est né dans un quartier riche. Il a été élevé dans une famille riche. Il a fait des études parfaitement réussies. Il est parti à Wall Street. Il est devenu trader. Et puis un jour, il en a eu assez et il est devenu moine. Il s'est d'abord installé en Savoie, puis il est descendu plus au sud, vers Marseille. Il s'est installé dans les quartiers nord de Marseille où il vit aujourd'hui. Il gagne aujourd'hui, en un an, ce qu'il gagnait en 3 semaines auparavant, lorsqu'il était trader à Wall Street. Henri Quinson, bonjour.
Bonjour.
Bonjour et merci d'être avec nous, Henri Quinson. Vous publiez Moine des cités de Wall Street au quartier nord de Marseille. Nouvelle cité, c'est l'éditeur. Henri Quinson, vous allez nous parler de votre vie. D'abord, vous êtes franco-américain parce que votre père était américain.
C'est ça. Ouais.
Et votre mère française. Et vous avez même voté aux élections présidentielles américaines.
Je viens c'est de faire fait. Ça, oui. Le cœur assez léger. Pour moi, le choix est assez simple. Alors évidemment,
pour qui avez-vous voté?
Je vais pas le dire à l'antenne parce que je peux pas le dire. Mais je suis tout à fait d'accord sur l'analyse des Français en général.
On a compris.
Et un candidat jeune qui a compris que l'intervention en Irak n'était peut-être pas la meilleure idée. C'est un bon candidat, disons.
Bien, Henri Quinson. On va parler de votre vie parce qu'elle est tout à fait étonnante. Vous allez nous expliquer comment, par quel cheminement de l'esprit on peut passer de Wall Street au quartier nord de Marseille. Vous avez été élevé dans une famille riche, appartement de 300 mètres carrés près des Champs-Élysées, vous faisiez du vélo dans l'appartement.
Celui d'Hervé Guémard d'ailleurs.
Celui d'Hervé Guémard,
oui,
ah bon,
enfin l'étage au-dessus.
Ah bon,
voilà,
l'étage
ça m'a amusé, j'ai eu des journalistes de Londres à l'époque qui m'avaient appelé là-dessus en me disant mais si vous n'avez pas des photos, et c'était le même, mais on n'avait que 300 mètres carrés, pas 600 mètres carrés comme lui.
Enfance heureuse,
oui, c'est-à-dire que moi j'avais pas du tout conscience justement des différences de richesse des uns et des autres. J'avais des vacances de rêve aux États-Unis et en France. Mon père était banquier, lui aussi était expatrié ici en France après avoir épousé une Française. Habitait effectivement rue Jean Goujon, c'est juste à côté des Champs-Élysées. Il allait travailler justement au rond-point des Champs-Élysées. Pour moi, ça faisait partie de l'environnement normal. J'avais pas encore conscience à l'époque quand j'étais enfant des différences considérables de niveau de vie et de style de vie et de la pauvreté, de la misère qu'on pouvait trouver dans le monde.
Alors l'adolescence, là aussi, c'est bien passé. Vous avez fait des études brillantes, Sciences Po. Et ensuite, vous êtes parti pour les États-Unis à quel âge?
Alors aux États-Unis, j'ai passé mon enfance parce que je suis né à l'hôpital américain de Neuilly-sur-Seine, là aussi tout un symbole.
Oui.
Et en fait, mon père était en stage pendant 6 mois en France à l'époque.
Oui.
Mon frère aîné est né à New York. Mon frère qui me suit d'un an et demi aussi est né à New York. Et moi, je suis né en France, mais j'ai passé mon enfance à New York, dans une banlieue qui s'appelle Larchmont, qui est très agréable, où ma grand-mère a vécu pratiquement toute sa vie. Elle est décédée il y a un an, à l'âge de 100 ans et un jour. Voilà, et nous avait attendu pour faire le grand passage.
Bon, Henri Quinson, vous retrouvez donc à Wall Street, trader à Wall Street, pour une société de bourse, pour...
Alors j'ai commencé ma formation à Wall Street avec une banque américaine qui s'appelait Bankers Trust, où il y a eu beaucoup de rachats de banques, etc. Et j'ai travaillé pour une banque française basée principalement à Paris, qui était la compagnie, la banque Indo-Suez, qui était la principale banque de la compagnie financière de Suez. Et donc la banque Indo-Suez, c'était une des deux grandes banques d'affaires françaises avec
Combien
Paris.
Combien de temps à Wall Street?
Alors à Wall Street, ma formation, c'était quelques mois. Dans mon livre, mon éditeur a mis de Wall Street au quartier nord de Marseille. Wall Street et les quartiers nord de Marseille, c'est des lieux symboliques.
Évidemment.
Alors je travaillais même étant à Paris avec Wall Street tous les jours, puisqu'en fait, c'est des marchés
vous
complètement
êtes
délocalisés.
À Paris, dans le monde des traders.
Voilà.
Vous aviez quelle vie à l'époque?
Alors à l'époque, c'était une vie qui était une vie assez facile sur le plan matériel. C'était une vie agréable. Moi, j'habitais avenue Bosquet avec la vue sur la Tour Eiffel. Tout allait bien pour moi à l'époque.
Et, vous rouliez dans une voiture de sport, vous sortiez beaucoup, vous dépensiez beaucoup d'argent. Vous aviez beaucoup d'amis très jolis.
Oui, on était dans un environnement où effectivement, pour aller vite, les gens étaient beaux et intelligents et n'avaient pas de problème d'argent. Ça, c'est vrai.
Oui.
Après, personnellement, déjà à l'âge de 20 ans, j'avais fait une expérience spirituelle forte. C'est celle qui m'a conduit un peu à mes choix. Et donc, j'avais déjà un certain recul par rapport à tout cet univers. Et donc, je tombais pas forcément dans les travers un peu faciles de l'EHPAD.
Vous aviez une petite amie à l'époque?
Moi, j'avais une vie tout à fait normale. Effectivement, je cherchais aussi l'âme sœur. Donc j'ai eu des petites amies, tout à fait.
Oui, à l'époque, c'était bon. Bien sûr. Et puis un jour, votre vie a basculé, a changé. Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ?
Ce qui s'est passé, c'est finalement un choix qui peut paraître peut-être un coup de tête, puisque à l'âge de 28 ans, débarquer à la banque Indosuez et dire à son patron, je démissionne, alors qu'à l'époque, j'avais par exemple une grande banque américaine, Merrill Lynch, qui m'appelait littéralement tous les jours, en me disant, on peut vous proposer plus, vous pouvez venir. Ouais. Et lui pensait que j'étais parti à la concurrence, et tout le monde a été surpris.
Donc vous êtes allé voir votre patron et vous lui avez dit ?
Je lui ai dit, je vais démissionner. Il m'a dit, c'est vrai que tu as le droit d'aller travailler à Londres avec Merrill Lynch. Les gens étaient un peu au courant de mes tractations. Et je lui ai dit, non, en fait, je vais partir pour un monastère. Et surprise, évidemment, parce que juste avant, j'avais négocié, je crois, 30% d'augmentation de mon fixe, plus une prime qui, effectivement, correspond aujourd'hui à mon salaire annuel de professeur à mi-temps. Et lui était surpris, comme beaucoup de mes collègues, et cherchait à comprendre. Et il a fallu que je leur explique, pour ceux qui ont été capables de poursuivre la conversation au-delà du choc, que moi, c'est à l'âge de 20 ans que j'ai fait une découverte spirituelle importante. La prière est entrée dans ma vie. Pour moi, Dieu, c'était un peu une abstraction. Et en cheminant pendant toutes ces années, en réussissant aussi matériellement, en me rendant compte que je pouvais réussir selon les canons de notre société, qui en grosso modo c'est il s'agit soit d'être riche, célèbre ou effectivement beau, avoir des amis, etc. Toutes choses qui sont pas forcément négatives. Mais pour moi, il y a quelque chose qui était plus important, et cette découverte de Dieu m'a conduit finalement à faire un choix qui est sans doute un peu caricatural, c'est-à-dire que tout le monde n'est pas obligé de le faire, ce choix radical d'aller quitter une banque où je gérais, je crois qu'à 5, on gérait 15 milliards de dollars, c'est à peu près le budget de la Tunisie. Et je me retrouve après dans un monastère à retourner des fromages au fond d'une cave, dans le silence, en Savoie, dans le massif des Bauges.
Où on se lève à 3h du matin.
Avec
ce
ma mère qui
vous a fait souffrir d'ailleurs.
Oui, parce que ça me manquait un peu de sommeil là, oui. Et c'est une des raisons pour lesquelles après je suis parti à Marseille. Mais alors, le plus étonnant, c'est quand j'ai pris cette décision, j'ai eu cette. Je ne savais pas trop exactement ce que je voulais faire. Est-ce que c'était une vie monastique, c'était une vie religieuse, devenir prêtre ? Je ne sais, c'était pas très clair dans mon esprit. Et j'ai eu cette vision de me retrouver à Marseille. Marseille que je ne savais même pas écrire correctement. Je l'écrivais à l'américaine avec un S à la fin. Entouré d'enfants visiblement venus du sud de la Méditerranée et que j'aidais pour leurs travaux à l'école.
Et pourquoi partir à Marseille ?
Je me suis posé la question. Je ne connaissais personne à Marseille. Je n'étais jamais allé à Marseille. Et je crois que Marseille devait symboliser, en quelque sorte, toute la question des banlieues, la question aussi, peut-être, la présence
de
l'islam.
Vous aviez envie de vous investir, envie d'aller aider ces populations-là, d'aller aider les enfants, d'aller éduquer. Donc vous êtes allé vous installer à Marseille. Quand vous êtes arrivé à Marseille, vous êtes allé où?
Vous étiez
moine déjà, donc après 6 années passées en Savoie, vous êtes allé où à Marseille ?
Je suis d'abord allé dans un quartier à 2/3 gitan qui s'appelle La Renaude, avec aussi le reste de la population plutôt issue du Maghreb. Et il y avait là deux religieuses qui faisaient un travail éducatif qui me paraissait remarquable. Je me suis un peu associé à elles et j'ai été rejoint très rapidement par un certain Karim Debrouker, un Marseillais d'origine algérienne, chrétien, et qui m'a dit, mais c'est important là que tu viennes vivre avec nous, et moi ça m'intéresserait, c'est de faire équipe et peut-être faire une petite communauté masculine dans un autre quartier. Et on a choisi un quartier qui s'appelle Saint-Paul. Je salue d'ailleurs mes voisins s'ils me regardent en ce moment. Des voisins qui m'ont accueilli de manière absolument extraordinaire, si vous voulez. Parce que c'est vrai que sur les ondes, on parle toujours des quartiers difficiles, on parle des quartiers sensibles, on parle de ces quartiers, par exemple en novembre 2005, quand tout commence à cramer. Mais on ne voit pas toutes les familles qui sont là, qui sont pauvres, beaucoup qui arrivent en France, qui arrivent pour des raisons économiques pour la plupart, qui travaillent dur cette semaine encore. On parle beaucoup de la crise financière, évidemment je la suis avec intérêt étant du métier.
On va parler de ça,
Mais c'est impressionnant de voir des gens qui rentrent, des pères de famille qui rentrent à 23h le soir, qui ont du mal à élever leurs enfants, des mères de famille qui se lèvent aussi très tôt pour aller faire des ménages, etc. Pour moi c'est ça vraiment les héros que j'ai découverts, et je suis toujours plein d'admiration devant ces familles.
Alors dans les quartiers nord, à la cité Saint-Paul, musulmane à plus de 70%, vous avez créé votre petite fraternité religieuse, vous êtes 4 en tout, 4 moines qui se partagent un appartement HLM, la porte est toujours ouverte. Vous allez nous raconter cela dans 2 minutes, Henri Quinson. Merci d'être avec nous ce matin. Je voulais vraiment ce témoignage parce que il est synonyme d'espoir et ça fait du bien. A tout de suite.
RMC, Bourdin & Co, Jean-Jacques Bourdin.
l'émission Nouvelle Cité. Henri Quinson, je sais que vous faites très très peu de télévision, vous n'avez pas accepté de reportage, quelques interviews et c'est tout. Et je vous remercie d'être venu nous voir ce matin, Henri Quinson, parce que nous sommes des privilégiés sur RMC, sur BFM TV. Henri Quinson, je vous lis, mon quartier, 21h30, il fait nuit, c'est l'hiver. Pas un chat dans la cité que je traverse après une longue réunion de parents au lycée. Trois jeunes me demandent une cigarette. Je leur réponds que je ne fume pas. Ils s'approchent et commencent à tourner autour de moi. Une main se glisse dans ma poche. Mais que faire ? Au lieu de me défendre physiquement, je leur lance « Vous n'êtes pas copain avec Sofiane ?» Visage reconnu, ils cessent aussitôt leur tentative de pickpocket. On rigolait. Pour désarmer la violence, il faudrait dire bonjour plus souvent, aimer les gens, les connaître, communiquer.
Ben oui, c'est essentiel. Hein. Quand les gens se regardent sans se connaître, ils se renvoient des abstractions. Souvent, je vais sur les sites internet et je regarde un petit peu les réactions des uns et des autres, que ça soit sur les questions des banlieues, comme on dit. Bon, déjà, les banlieues, on ne sait pas trop ce que c'est, hein, parce qu'il y a toutes sortes de banlieues. Mais enfin, c'est intéressant comme mot, parce que c'est la mise au ban de la société. Et en fait, je me suis rendu compte, à travers cette expérience, d'aller vivre avec les gens, puisqu'en fait, on est allé habiter dans ce quartier, pas du tout, ni pour vendre notre soupe religieuse, ni même pour proposer...
Vous n'êtes pas là pour faire du prosélytisme.
Exactement. Ah. On est arrivé, les gens étaient très étonnés parce qu'on leur avait annoncé l'arrivée des curés. Alors la plupart d'entre eux ne savaient même pas ce que c'était qu'un curé. Ils étaient très étonnés. D'abord, Karim est d'origine algérienne. Oui. Moi, j'étais bien jeune parce que je fais 10 ans de moins. Et ils se sont dit, mais c'est des étudiants en goguette, c'est bizarre. On a refait notre appartement qui avait été squatté. Et en fait, ces abstractions qu'on se balance les uns sur les autres et qui font que les gens vont être facilement agressifs, elles ne peuvent être désarmées pas par l'argent, pas par des spots publicitaires qui voudraient remodeler la vision du monde, mais c'est la rencontre des gens. Et heureusement, nos voisins, rapidement, nous ont dit « Mais en fait, vous savez lire et écrire, vous pourriez peut-être aider les enfants pour leurs devoirs. » Et c'est là que ma vision marseillaise s'est transformée en réalité, sans forcément que je l'ai cherchée, c'est un peu un concours de circonstances. Et à travers cet accompagnement scolaire, par exemple, on a une soixantaine de bénévoles qui viennent régulièrement sur le quartier, aider les jeunes du quartier. Et donc, là, les gens se rencontrent. Les gens
habituellement, les moines, Henri Quinson, choisissent l'isolement.
C'est vrai que c'est une bonne question et j'essaie d'en parler dans mon livre. C'est-à-dire que les moines, au départ, c'est les pères du désert. Donc, des gens qui vont se retirer. Alors, dans les déserts d'Égypte, à l'époque, c'était aussi la banlieue, puisque c'était la banlieue de l'Empire romain du temps après la conversion de l'Empire Constantin. Et donc, l'Empire romain était devenu chrétien et c'était aussi la fuite d'un certain monde de conformistes, etc. Et nous, on se dit que les banlieues, c'est aussi les nouveaux déserts aujourd'hui, même si c'est pas exactement la même chose, mais c'est des lieux réputés dangereux, etc.
Mais vous n'avez jamais subi d'actes de violence, votre appartement n'a jamais été cambriolé, votre porte n'a jamais été forcée, non, elle est toujours ouverte.
La seule chose qui m'est arrivée, c'est par exemple, vous citiez ce passage où j'ai un début d'agression, mais pas d'agression, c'est-à-dire l'agression ne se transforme pas, c'est simplement une menace, mais qui après est renversée, simplement sur la base de la relation. Quand on est arrivé, on nous a arraché notre sonnette de porte.
Oui.
Comme tous les gamins venaient jouer au Scrabble, on leur a dit plus de Scrabble tant que la sonnette ne revient pas. Comme par hasard, un jeune est arrivé en disant on l'a retrouvé quelque part dans le caniveau. Bon, ok, c'est pas toi. Et puis c'est à peu près tout. C'est-à-dire que les relations, une fois qu'on est adopté par nos voisins, les relations sont excellentes. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas des problèmes de délinquance, des problèmes de vente de drogue, etc., des vols de voitures. Mais on pourrait en dire autant.
Vos voisins ont changé parce que beaucoup sont pauvres, beaucoup sont jeunes, vivent. D'ailleurs, comment vivent-ils cette crise ?
Cette crise, pour eux, elle est très ancienne, parce qu'ils n'ont pas attendu la crise financière pour morfler. Hein. Ça fait très longtemps que la vie est dure dans ces quartiers. Donc, la crise financière, pour eux, c'est quelque chose d'assez lointain. Ils n'ont pas d'épargne, donc ils ne sont pas touchés par la baisse des actions. La plupart des Français, d'ailleurs, ne sont pas actionnaires. Je crois que c'est que 5% des Français qui ont des actions. Mais ils ne sont pas tellement touchés par la liquidité bancaire, parce que de toute façon, au point où ils en sont, on vit au jour le jour. Donc je dirais, ils ne sont pas touchés immédiatement, même si cette crise va sans doute avoir des incidences sur ce qu'on appelle l'économie réelle, donc sur l'emploi. Mais nous, c'est des cités où il y a plus de 30% de chômeurs, les gens qui travaillent dans des emplois précaires. Donc tout ça, ça fait des années que ça dure. Donc c'est des gens qui déjà sont dans la crise. Alors comment s'en sortir ? Alors c'est intéressant, parce que moi qui suis un ancien banquier, par exemple, j'avais un de mes voisins, Badran, je me rappelle quand on est arrivé il y a 12 ans, qui me disait, moi plus tard je voudrais être banquier, est-ce que tu crois que c'est possible ? J'ai dit, ça tombe bien, moi je suis un ancien banquier. Au début, il ne me croyait pas, il me disait, mais il n'y a pas de banquier dans notre quartier. Je dis, si, j'ai été banquier avant, je t'assure. Au printemps dernier, il est venu me voir en me disant, j'ai été embauché à Société Générale, CDI, en banlieue parisienne.
Ah, c'est génial, ça. Et dites-moi, Henri Quinson, est-ce que des traders actuels viennent vous voir. Peut-être même se confesser ou se repentir, ou je ne sais pas.
Ce qui est marrant, c'est que...
Vous avez gardé des liens avec
ouais, ces... j'ai gardé des liens. Donc j'ai des amis toujours dans la profession. Donc ça, ça fait partie des amis. Mais c'est vrai qu'avec mon livre, comme ils ont vu deux Wall Street au quartier nord de Marseille, je me retrouve avec des gens qui, en ces périodes troublées, commencent à réfléchir un peu à qu'est-ce qui se passe, au sens aussi de nos existences. Parce que je crois que c'est ça qui est vraiment important dans ce type de parcours. Encore une fois, il est un peu caricatural, il est un peu symbolique, mais ça nous ramène tous à nos propres questions. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on veut faire de notre vie? Et donc oui, l'autre jour, j'ai déjeuné par exemple avec quelqu'un qui a pris contact avec moi, qui est toujours dans le métier et qui se posait des questions sur qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui travailler dans ces métiers, sachant que on s'aperçoit que ce monde des actions peut perdre 50% de sa valeur en quelques semaines. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi ce système? Alors moi, je crois que la monnaie, c'est un mauvais maître, mais un bon serviteur. On en a besoin. Moi-même, j'ai toujours un compte bancaire. On vit de notre travail à mi-temps.
Vous lisez quoi le matin? Vous lisez le New York Times? Vous lisez le Wall Street Journal, la Tribune? Je ne sais pas, moi.
Surtout le New York Times, c'est vrai. Étant franco-américain, ça maintient un peu mon anglais. Puis je suis prof d'anglais à mi-temps et je donne aussi pas mal de cours d'anglais à mes petits voisins. Ça maintient mon anglais. Et puis là, c'est vrai que moi, je dois voter aussi aux États-Unis. Je l'ai fait. Et puis cette crise, c'est quand même quelque chose d'important pour l'ensemble du monde et qui touche des milieux qui, a priori, sont déconnectés. Parce qu'en fait, c'est ça qui est très intéressant, c'est que ce milieu des traders, c'est un milieu dont on parle beaucoup, que peu de gens connaissent finalement. Très peu de gens sont entrés dans une salle des marchés. Et de la même manière, le quartier où je vis, la réputation d'être un peu malfamé, etc. Mais personne n'y a jamais vécu. Donc c'est des univers qui ne se connaissent pas. Et ce qui est intéressant, c'est de faire le lien entre les deux et de voir que finalement, la réalité humaine, elle, est commune.
Un mot encore, quelques mots encore sur Raymond Barre. Vous avez travaillé avec lui et on apprend dans votre livre, il est mort à 83 ans,
c'est ça.
Raymond Barre, d'une insuffisance rénale. Et on apprend dans votre livre qu'il aurait pu bénéficier d'une transplantation rénale, mais il a préféré en faire bénéficier quelqu'un de plus jeune que lui. Ça, on ne savait pas et je trouve... C'est tout à fait remarquable.
C'est un scoop et je suis content que vous le repreniez à l'antenne. Je l'ai mis en note dans mon livre parce que j'ai estimé que c'était une information qui reflétait bien la qualité morale de la personne que je connais. Je suis très ami avec une de ses nièces et c'était important aussi au-delà des options politiques sur lesquelles les gens peuvent absolument avoir leurs opinions.
Bien sûr.
J'appréciais effectivement l'intégrité morale et là en l'occurrence la générosité de la part d'un ancien Premier ministre qui aurait pu avoir cette greffe sans difficulté.
Emma, vous êtes avec les auditeurs d'RMC, Emma. Que disent nos auditeurs, Emma?
Philippe vous demande si vous donniez aux pauvres quand vous étiez trader.
Alors, j'ai toujours un peu de peine à répondre à cette question parce que j'aime pas trop mettre en avant. Si les journalistes faisaient bien leur travail d'investigation, ils trouveraient, quelques petites générosités de ci, de là.
Bon. Emma?
Question de Malika. Si une chose devait vous manquer de votre ancienne vie de trader, ce serait quoi?
Alors, c'est pas une vie que je regrette du tout, donc je suis plutôt, moi, tourné vers l'avenir, et ce qui me manque, c'est d'être le plus possible un être humain décent, quoi. C'est ça qui me manque. Quelquefois, je suis pas à la hauteur. Je vis pas trop dans le regret. Quelquefois, je peux me dire, ça serait agréable d'avoir une maison un peu plus grande, mais en même temps, c'est tellement formidable d'avoir des voisins qui vous disent bonjour. Je me rappelle que quand j'allais travailler, moi, de l'avenue Bosquet au rond-point des Champs-Élysées, personne ne m'a dit bonjour en 4 ans. Moi, je vais travailler. Tous les matins, j'ai une ribambelle d'enfants qui me disent où tu vas, Henri, etc. C'est un vrai bonheur.
C'est un vrai bonheur. Alors, vous savez que nous avons une tradition sur RMC. Nous posons des questions politiquement concrètes. Alors, on y va. Vos anciens collègues traders vous ont-ils appelé pour se repentir? Ça, vous avez répondu. Vous n'avez pas confessé Jérôme Kerviel, non?
Non, pas encore.
Pas encore. Non. Bon, vous comprenez ce qui lui arrive ou le trader de la caisse d'épargne?
Oui, je comprends bien parce que c'est vrai que quand vous êtes là-dedans tout le temps, c'est une vraie tirelire, secouée dans tous les sens. Si vous avez le goût du jeu, vous pouvez aller assez loin. Et je l'ai vu moi-même. C'est généralement des choses qui se règlent confidentiellement entre banquiers, sans trop qu'on en parle. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui peuvent craquer, jouer, gagner, et puis à un moment on perd.
De quoi est-il le plus compliqué de se défaire? L'argent, le pouvoir ou le sexe?
Alors je crois que pour ce qui me concerne, c'est certainement le rapport aux femmes.
Vous avez fait vœux de chasteté?
Oui, on fait... Enfin, c'est pas des vœux à proprement parler, mais c'est un célibat chaste, c'est-à-dire que je vais pas courir tous les samedis soirs dans le nightclub local. Pour moi, c'est le plus difficile parce que ça touche à un être profond, notre relation à... une femme, non pas les femmes, mais une femme, mais une relation d'intimité avec une femme, c'est quelque chose quand même
qui... Vous êtes tombé amoureux depuis que vous êtes... je suis dans l'intime, le plus, hein, depuis que vous êtes moine.
Ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé.
Ça vous est arrivé, oui.
J'ai agi en conséquence de manière responsable et en l'occurrence, l'autre personne aussi a toujours été très responsable et respectueux de ma vocation. Et je crois que dans ces moments-là, c'est un souci de vérité. C'est-à-dire que quelle est sa vérité par rapport à l'engagement dans ma communauté, par rapport à mes voisins, par rapport à la personne concernée, puisque là, ce qui compte vraiment, c'est d'arriver dans des relations humaines et dans ces relations humaines entre hommes et femmes. Ce qui est beau, c'est de vivre une vraie relation et non pas simplement des amuse-gueules passagers. Ça m'intéresse pas du tout.
Bien, j'ai une dernière question. À quelle heure commence plus belle la vie?
Alors là, je ne sais pas, mais j'ai appris tout récemment que mon ancien DRH d'Indosuez, sa fille, qui s'appelle Ornus de son nom de famille, je ne me rappelle plus son prénom, joue dedans. Donc je vous en dirai plus.
Feuilleton Marseillais,
20h20. Peut-être une prochaine
fois. Voilà. Merci Henri Quinson. Allez, Moine des Cités, de Wall Street au quartier nord de Marseille, aux éditions Nouvelle Cité. Je vous remercie vraiment d'avoir fait le voyage jusqu'à nous pour participer à cette émission. Merci. 8h58.